Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la du live. J'ai encore et toujours le plaisir d'être accompagné par mon compère Alain. Bonjour Alain, comment vas-tu?
Bonjour Benoît, bah écoute, super, écoute, c'est l'été, c'est le bonheur, les vacances approchent.
Et oui, les vacances approchent, hein, ça y est, il fait chaud. Ravi d'être à tes côtés à nouveau pour ce 32e épisode de la du live déjà, mon cher Alain. Alors un épisode un peu spécial puisqu'il s'agit du dernier épisode de la saison 7. Voilà, la saison 2022-2023, c'est le dernier épisode de la du live. Toutes les bonnes choses ont une fin, vous le savez. Et on s'est dit avec Alain que pour terminer cette saison assez exceptionnelle, hein, il faut le dire, on voulait terminer en beauté. On a tenu à vous proposer un épisode un peu différent d'habitude.
Ouais.
Je vous explique tout ça. Alors, c'est extrêmement simple. J'ai sélectionné quatre sujets majeurs de cette année. Voilà, quatre sujets vraiment importants pour le numérique, et pas que, pour même la société de manière générale. Le sujet que je vais présenter à Alain. Et Alain, ta mission est très simple. Est-ce que tu as vu Matrix, Alain? On va
Oh,
commencer
mais
par
bien sûr,
là.
Matrix, magnifique trilogie, même si effectivement le premier, il est quand même incroyable avec cette histoire d'ailleurs de Matrix et donc de numérique.
Exactement, exactement. C'est bien parce que le film n'est pas du tout éloigné de ce qu'on fait. Si vous n'avez pas vu Matrix, chers auditeurs, je vous encourage vivement à le voir. Et si vous l'avez vu, vous allez comprendre le principe. Sur les quatre sujets, Alain va devoir me donner deux scénarios façon pilule bleue et pilule rouge. Voilà, donc on va dire le meilleur scénario possible d'un côté, le plus souhaitable. Et de l'autre côté, c'est l'inverse, hein. En tout cas, si ce n'est
Ouais.
le pire scénario, du moins, celui qu'on espère pas vraiment voir à
Eh oui.
l'avenir. Donc voilà le principe, Alain, à chaque fois, à chaque sujet, voilà, tac, pilule bleue, pilule rouge. Vous allez voir au niveau des sujets, on vous a gâté Microsoft, Secnum Cloud, Colabnext et enfin l'IA. On vous a pris la crème de la crème des sujets d'actualité.
Et
Voilà
d'ailleurs,
pour...
pour rappeler le film, pourquoi est-ce qu'on s'est mis dans cette posture-là? C'est que Néo, hein, qui est le héros, en fait, on lui donne le choix. On lui donne deux choix, de prendre la pilule rouge ou la pilule bleue. Donc sa vie ensuite va évidemment être différente selon le choix qu'il fait. Et c'est la même chose dans notre monde numérique. Les sujets qu'on va aborder ne sont pas évidemment des sujets sur lesquels on n'a pas de prise. On a prise chacun pour justement le faire bouger. C'est pour ça que je trouve intéressant de réfléchir dans cette logique-là. Est-ce que vous préférez finalement laisser les choses faire la pilule rouge ou est-ce que vous voulez agir dans la Matrix, la pilule bleue?
Et sur ces belles paroles-là, je te propose de commencer tout de suite avec un très gros morceau, hein, je l'ai dit, Microsoft, voilà, je pose la question, mais encore une fois, Alain, tu pourras nous présenter tes deux scénarios. Le géant américain va-t-il être l'objet de poursuites de la part de la Commission européenne? Alors, c'est une question qui date pas d'hier, hein, vous le savez, on en parle régulièrement dans de la du live, la position largement dominante de l'entreprise américaine, hein, on rappelle, parce qu'il y a eu, il y a quelques semaines, la nouvelle édition de l'Observatoire de l'Intranet et de la communication digitale par notre partenaire Arcus, que je vous encourage à voir. Je rappelle que Microsoft détient 80% des parts du marché des solutions collaboratives en France, donc une position qui est régulièrement pointée du doigt, notamment par les éditeurs de logiciels français, hein, qui militent pour un partage du marché qui est plus équilibré, plus équitable. GameSpot en fait notamment partie. Et le bruit court depuis le début d'année, et même un petit peu avant, que la Commission européenne est sur le point de lancer des poursuites à l'encontre de Microsoft. Je crois savoir que le point de départ de cette, de justement de ces rumeurs, c'est une plainte déposée en 2020 par Slack, qui reprochait à son concurrent l'installation automatique de Teams, l'impossibilité de supprimer l'application, dissimulation de son coût réel. Donc bref, voilà, des pratiques anticoncurrentielles. Alors Alain, voilà, la position, pour prendre un peu de recul, la position dominante de Microsoft et le fait que l'entreprise puisse potentiellement être l'objet de poursuites de la part de la Commission européenne, mais aussi d'autres institutions, hein, on sait que c'est pas la seule. Comment est-ce que tu vois l'avenir par rapport aux géants américains? Alors, pilule bleue ou pilule rouge, je
Pilule
te laisse
rouge,
choisir.
on commencera à chaque fois pilule rouge, on va commencer à chaque fois par la dystopie, hein, si ça te va.
Ça me va très bien, on y va.
Ouais, comme ça après on se consolera à chaque fois dans un autre scénario. Donc pilule rouge, la Commission européenne décide de prendre une pilule rouge et donc quelque part elle attend. Elle veut pas justement se précipiter par rapport à ça. Microsoft, c'est quand même quelque chose de très important. Une des plus grosses boîtes mondiales, d'ailleurs, aujourd'hui, avec un chiffre d'affaires quasiment plus gros que certains pays européens. Et donc, bon an, mal an, en fait, Microsoft quand même passe des accords privés, hein. Finalement, il trouve un deal avec Slack, enfin, maintenant Salesforce. Il trouve un deal avec OVH, parce qu'il y a aussi là une plainte avec OVH, avec la boîte allemande aussi, il y a Nextcloud aussi. Et tout ça s'éteint. tout ça s'éteint. Et quelque part, bah, Microsoft fait un peu le dos rond, hein, il fait pas le malin, hein, mais du coup, il est ni démantelé, ni avec une amende, rien finalement, et il continue son rouleau compresseur. Donc, il avait déjà tout mangé avec Teams, évidemment, sur la collab. Bah, du coup, il s'étend un peu plus avec Azure, et il s'étend encore un peu plus peut-être avec la partie CRM, avec Dynamics. Et on voit maintenant même les outils métiers français, parce qu'on est très fort, nous, sur les outils métiers, les Cegid et autres, qui tout d'un coup, bah, ils ont le même problème quand ils se retrouvent un petit peu attaqués, comment faire ? Et petit à petit, en fait, bah, il y a une atrophie de l'espace numérique européen et français. Et Microsoft double encore sa capacité, son chiffre d'affaires. Et on se dit, mais pourquoi on n'a pas agi plus tôt ? Voilà, ça, c'était la pilule rouge.
Ça, c'était la pilule rouge. Alors, du coup, on va dire le meilleur scénario, la pilule bleue. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? C'est quoi l'autre scénario possible ?
Alors, la pilule bleue, c'est là, il y a un réveil. En même temps, d'ailleurs, là, il se trouve que la commission comprend tout d'un coup qu'elle est en train de se faire empapaouter. On a justement, par exemple, là, la commissaire à la DG Concurrence, qui était une américaine pro-GAFAM, qui tout d'un coup devait être mise, a été destituée. Donc, effectivement, la commission veut montrer qu'elle est forte face à Microsoft. Et donc, elle dit, OK, bah, Teams, par exemple, doit être vendu séparément, comme Outlook. Le DMA, oblige en fait Microsoft à mettre sur sa stack des gens qui ne sont pas sur Azure, donc par exemple des gens comme nous, et donc des offres émergent parce que ok, les clients peuvent utiliser Teams, mais ils peuvent utiliser toutes les stacks autres françaises et européennes. Et il y a un phénomène d'accélération incroyable de transformation du marché parce que les gens payent, OK, pour garder Office parce qu'ils ont l'habitude depuis 30 ans, mais tous les autres trucs un peu modernes, un peu innovants, bah, ils vont chercher d'autres éditeurs. Et de 80% en 2026, il y a une innovation qui arrive et plus de 50% de parts de marché seulement appartient maintenant à Microsoft. Le marché s'est aéré, tout le monde va mieux. Voilà, c'était la pilule bleue sur laquelle on a pris prise.
Merci Alain. Alors je l'ai pas précisé à nos auditeurs, mais il est possible qu'on aille un peu dans l'exagération dans cet épisode. Voilà, à peine, juste un petit peu, un petit chouïa.
Dans le rouge et dans le bleu. On peut exagérer dans les deux.
Voilà, c'est l'épisode estival, c'est le dernier épisode de la saison, donc on se fait un petit peu plaisir, chers auditeurs. Je pense que vous le comprendrez très bien. Sans transition, Alain, on va parler maintenant hébergement dans le cloud et plus spécifiquement de certification avec celle qui est sans doute la plus connue aujourd'hui. Hein, je parle bien sûr de Segnium Cloud, qui est le référentiel, pour rappel, établi par l'ANSSI en 2016 et qui est attribué aux opérateurs cloud qui ont établi et démontré surtout un certain niveau en matière de sécurité numérique. C'est un référentiel qui a d'ailleurs évolué cette année avec l'ajout de nouvelles exigences en matière de sécurité des données personnelles. Donc l'ANSSI a collaboré avec la CNIL, hein, qui, pour rappel, est en charge du respect du RGPD. En tout cas en France. Et il faut enfin rappeler que le gouvernement a imposé, dans le cadre de sa stratégie cloud au centre lancée en 2021, de recourir à un prestataire muni du label Segnium Cloud dans le cas du traitement de données d'une sensibilité particulière. Donc voilà, c'est un référentiel qui est assez important, qui prend de plus en plus de place. Comment est-ce que tu vois l'avenir par rapport à ça, Alain ? Pilule rouge, du coup.
Donc, pilule rouge. En fait, Segnium Cloud, c'est quand même dur à mettre en place. On a très peu d'acteurs qui sont mis en place. Les conditions se sont durcies. Et puis, finalement, les éditeurs ont beaucoup de mal. Ça coûte très cher. Les solutions, d'ailleurs, qui peuvent être Segnium Cloud sont d'ailleurs moins disantes parce que, en fait, on ne peut mettre Segnium Cloud que des produits et pas l'intégralité de sa gamme. Donc, chaque éditeur, en particulier les petits moyens, choisissent un produit. Donc, ils peuvent pas tout mettre. Et dans le même temps, Microsoft, eh ben, il devient Segnium Cloud parce qu'en fait, effectivement, il était avec une offre bleue là, avec Orange, et ça se passe très bien. Et donc, tout d'un coup, on a un effet de marché avec en plus le Data Act là, qui a été le Privacy Act, qui a été renégocié, où finalement, ce qui était une volonté de créer une distorsion de marché positive pour les acteurs locaux se retourne contre eux parce qu'en fait, ils ont plus de contraintes. Les très gros n'ont rien à faire parce que pour Microsoft, un Segnium Cloud, ça ne coûte rien, alors que pour un éditeur de 2 millions, ça coûte extrêmement cher. 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Hein. Et donc, on a finalement des solutions vieillottes européennes qui se font damer le pion par les Américains encore plus, alors qu'on voulait justement les protéger. Mais c'est parce qu'on leur a mis encore plus de contraintes, alors que justement, Segnium Cloud était au début prévu que pour les protections dans le cloud de très, 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 très haut niveau. Et donc, on a mis la protection maximale, sauf que les gens ne sont pas prêts ni de le payer, et ça pose des problèmes même de mettre à jour et d'avoir de l'innovation en permanence. Et donc, game over, on a justement des gens qui se détournent de Segnium Cloud, et on retrouve une situation qui est quand même assez, assez négatif parce que on a ni protégé le secteur, on a dépensé beaucoup d'argent pour un truc qui n'était pas finalement utile pour le marché, et c'est Microsoft qui gagne.
Alors justement, Alain, je me permets de creuser un petit peu la question. Tu disais justement que le label Sinium Cloud, il est difficile à mettre en place. Est-ce que tu peux expliquer un peu à nos auditeurs pourquoi ? Est-ce que c'est un problème d'administration ? Est-ce que c'est un problème que les exigences sont justement extrêmement élevées ? Que voilà, c'est un label qu'il faut vraiment mériter. Qu'est-ce qui fait qu'il est difficile ?
C'est les deux. C'est-à-dire que c'est un label qui est extrêmement exigeant, à un niveau que normalement était réservé il y a quelques années au monde militaire, quoi, tu vois. Donc ça veut dire que pour une mairie de 5000 habitants, on va les encourager à avoir un niveau de sécurité qu'avant, il y avait juste les militaires qui avaient. Donc tu vois, pour te montrer un peu la marche. Et deuxièmement, c'est qu'effectivement, il est administratif. C'est l'ANSI qui donne un tampon avec un audit, avec un respect d'un certain nombre de choses. On va dire la première fois, tu peux dire, bah oui, il faudrait au moins avoir ce niveau-là. Alors déjà, la marche est, à mon avis, un peu trop haute, militaire versus des fois des données un peu plus civiles. Mais surtout, c'est qu'en plus, à chaque fois que tu sors une nouvelle version de produit, il faut le refaire qualifier. Parce que ouais. Tu sais pas si le code que tu as introduit depuis n'a pas des failles, des risques, etc. Très bien, mais ça veut dire que toute la logique du SaaS qui est en continu devient problématique. Parce qu'en fait, tu peux toujours dire, bah non, il faut... Et tu retrouves ce qui se passe dans le monde médical, dans lequel il y a des produits, des fois, il faut 3 ans pour qu'ils arrivent sur le marché. Alors après, on va dire c'est pour sécuriser les gens, sauf qu'à un moment donné, on sécurise tellement que finalement, c'est l'innovation qui perd. Et si en face, les gens peuvent acheter des outils qui, eux, n'ont pas cette obligation-là, Sinium Cloud, en fait, les gens vont acheter que des produits américains parce que ce sera plus facile. Voilà. Game over. Mmh. Voilà. Retour. C'est ça le risque. Alors, pilule bleue, quand même.
Imaginons quand même un scénario un peu plus... imaginons ça. Dis-moi.
En fait, il y a aujourd'hui des discussions pour une fusion EUCS, Sinium Cloud, c'est-à-dire au niveau européen. Il y a une fusion qui s'opère et avec en plus un système justement de normatif beaucoup moins important. C'est simplifié et en plus pour le niveau dit Sinium Cloud, par exemple, on dit si on a hébergement Sinium Cloud, donc sur des clouds Sinium Cloud, ça suffit. Et pour une mairie, par exemple, on n'a pas besoin que l'éditeur soit Sinium Cloud. Dans ces cas-là, les conditions de marché sont beaucoup plus positives. Ce qui se passe en parallèle, c'est que c'est au niveau européen, donc il y a une masse critique. Et là, tout d'un coup, par exemple, toutes les collectivités territoriales s'équipent du label EUCS. Et là, on a tout d'un coup un marché qui croît de 100 à 200% de croissance pour les acteurs locaux. Donc, on voit bien que là, dans la pilule bleue, c'est-à-dire que si la norme devient plus légère et favorable, ça c'est le point clé, favorable aux acteurs locaux, alors dans ces cas-là, on rafle la mise. Si la norme est trop complexe et que les étrangers peuvent l'avoir sans problème, ça devient défavorable aux petits et on tue l'innovation. Tout va se jouer là dans cet équilibre et là, ça va être, pour moi, c'est dans l'année qui vient, on va voir de quel côté ça va tomber.
Merci Alain, on verra effectivement si on penche plutôt du côté de la pilule bleue ou de la pilule rouge, mais encore une fois, il s'agit d'une question de choix et non pas de fatalité, on le rappelle, c'est très important.
Tout à fait, et d'ailleurs, par exemple, là, c'est le choix de la Commission européenne, des normes européennes, de la position de l'ANSI, des directives de l'État par rapport aux directives de l'ANSI, voilà, pour pas être, en gros, maximaliste. La question, c'est de surtout pas être maximaliste, ce n'est pas comme ça qu'on va gagner la bataille contre nos amis américains. Eux, ils ne sont pas maximalistes, ils sont pragmatiques. Donc, il faut qu'on soit pragmatique, mais qu'on protège, et donc qu'on soit protectionniste. La question n'est pas de la norme de sécurité, mais la question de la protection. Ce qui est très, très différent, c'est une question économique et non pas de cybersécurité. Ne nous trompons pas de débat.
Merci Alain. Alors, j'ai mentionné en introduction justement du sujet du label Sinium Cloud, de la stratégie cloud au sein du gouvernement. Et le sujet qu'on va aborder à présent y est directement lié. Il s'agit du projet Collab Next. J'avais hâte d'en parler avec toi justement et de le présenter un peu à nos éditeurs. Donc, comme pour les autres sujets, un petit peu de contexte. Dans le cas de sa stratégie cloud au sein, donc le fait de soutenir les acteurs, les éditeurs locaux, les éditeurs français, et de soutenir leur passage à l'échelle, le gouvernement a loué une enveloppe de 23 millions d'euros à 3 projets numériques qui ont été sélectionnés suite à un appel d'offres, donc il y a vu des dizaines d'éditeurs français tenter leur chance, c'était un beau moment d'émulation, et ce sont donc les projets des éditeurs Jamespot, Wimi et Interstice qui ont été sélectionnés. Donc si Collab Next, ça ne vous parle pas du tout, chers auditeurs, rassurez-vous, l'objectif de Collab Next est de proposer une alternative qui soit solide et fiable aux solutions américaines, donc qui domine encore une fois, on le rappelle, le marché français, de situation de déséquilibre, à travers, et là je citerai un certain Alain Garnier, hein, que vous connaissez peut-être, à travers une plateforme, je cite, collaborative, souveraine, innovante, sécurisée et interopérable. Donc Alain, pour rappel pour nos éditeurs, il y en a peut-être sans doute beaucoup d'entre vous qui le savent, d'autres ne sont peut-être pas au courant, hein. Tu es entrepreneur, tu es président et cofondateur de Jamspot, donc l'un des trois éditeurs qui a été sélectionné suite à cet appel d'offres. Donc Collab Next, voilà, grande ambition française, soutenue par le gouvernement. Comment tu vois la chose? Voilà, imaginons la dystopie, la pilule rouge et ensuite la pilule bleue, dis-moi.
Bah ça, voilà. Donc je vais me lancer dans l'exercice de la pilule rouge, même sur un sujet qui nous concerne très directement. Alors, les trois projets sont lancés, l'État a mis ça en avant, c'est super, sauf que ça s'enlise. Voilà, ça s'enlise, bah, c'est les projets. Il y a beaucoup de partenaires, les partenaires s'entendent pas forcément. Les choix, en fait, sont pas forcément ceux du marché, parce qu'en fait, c'était un projet qui était déposé sur papier. Donc, en fait, on suit la norme un peu rigide du Warp Package qu'on avait dit qu'on devait faire il y a 3 ans. Mais sauf que aujourd'hui, il y a des choses qui ont changé. Hein, l'IA est arrivée. Et donc, ça coince un peu. Les projets finalement mettent beaucoup de temps à sortir et quelque part ça accouche d'une souris, hein. C'est-à-dire que finalement oui, ça a amélioré, mais ça n'a pas été un breakthrough parce que justement les projets sont un peu enlisés. Résultat des courses, tout de suite on dit ah mais voyez, il y en a pas qui sort du lot. Du coup les collectivités territoriales, les ministères, etc. s'équipent pas trop. Bah du coup si ça s'équipe pas, le projet de R&D ne génère pas de marché, pas de suite du produit et tout ça tombe un peu. Fait un espèce de flop. Et puis, bah, t'as un article qui sortira pour dire encore de l'argent public gaspillé pour rien, parce que justement, ça n'a pas été au bout. Voilà la pilule rouge qui peut nous arriver.
Et justement, le meilleur scénario que l'on espère, bien sûr, hein, évidemment, pilule bleue, voilà, tout se passe pour le mieux. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'impact de Collab Next? Comment ça se passe?
Alors, pilule bleue, c'est qu'effectivement, là, c'est des industriels sérieux. Sur les trois, il y en a au moins deux qui cartonnent, qui ont une solution qui plaît au marché. Il se trouve qu'en parallèle, le gouvernement a poussé effectivement les feux en disant « Écoutez, on a financé ces projets, donc maintenant, il faut que les collectivités territoriales s'équipent, les ministères, les agences, et le fameux « Je choisis la French Tech, mets en avant ses réussites », parce qu'il y a ça aussi, en parallèle, qui du coup arrive et appuie ça avec un doublement des achats publics. Qui dit doublement des achats publics, un emballement en fait effectivement de ces acteurs qui étaient en dessous des 10 millions d'euros, qui les dépassent dans les deux ans. Et à telle enseigne que, avec cette capacité de R&D, d'innovation et de marketing pour parler au marché, tu disais tout à l'heure, ah, peut-être vous connaissez pas Jamspot, bah tout d'un coup, les gens connaissent les marques, en particulier justement les collectivités territoriales. Je reviens beaucoup sur les collectivités territoriales parce qu'elles sont au cœur, en fait, de l'équipement à large spectre de ces outils collaboratifs, hein, au-delà des ministères plus centralisés. Là, tout d'un coup, il y a vraiment des gros bataillons en fait à équiper, de millions et de millions d'agents. Ce qui représente effectivement et tout, beaucoup de capacités. Et on se retrouve avec un acteur qui dépasse au bout de 5 ans les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qu'on n'aurait jamais imaginé. Mais vous savez quoi? Il y a un acteur aujourd'hui avec la même trajectoire en Corée, qui s'appelle Ancom, un peu plus tôt que nous, qui a commencé il y a plus d'une dizaine d'années, qui aujourd'hui fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires en Corée, sur ce segment. Parce que l'État avait financé effectivement un acteur en le poussant, en finançant sa R&D et en achetant sa solution. Et aujourd'hui, il représente plus de 300 millions. Donc, c'est possible. C'est possible. La pilule bleue est possible et c'est à portée de main. Il faut juste effectivement que les planètes s'alignent, les industriels, l'État et les acheteurs. Et là, rien ne peut nous arrêter. Ce qui est intéressant, là, c'est que, par exemple, entre le début du projet Collab Next et maintenant, il y a eu aussi l'alignement des acheteurs avec « Je choisis la French Tech ». Donc, on a un élément qui, pour moi, va en plus dans le bon sens. Donc, tout ça nous laisse plutôt penser que la pilule, elle peut être bleue plutôt que rouge.
Bah écoute, le soutien du gouvernement, des industriels de talent, on espère évidemment que justement c'est la pilule bleue qui va prévaloir. En tout cas, les éléments principaux sont là. Colam Next, hein, l'un des sujets à suivre absolument dans les mois qui viennent, tant son impact sur le paysage des solutions collaboratives sera important. Merci beaucoup Alain, je te propose maintenant de passer au dernier sujet de cet épisode estival, et pas des moindres, tant il a fait couler de l'encre cette année, et c'est loin d'être fini d'ailleurs. Je parle bien sûr de l'intelligence artificielle. Alors, quelle année pour l'IA? Quelle année? Évidemment, l'événement majeur de l'année concernant l'IA, c'était bien entendu l'arrivée de ChatGPT-3 sur le marché. L'agent conversationnel, pardon, de l'entreprise OpenAI, qui, on peut le dire, a bluffé absolument tout le monde et replacé, si c'était nécessaire, l'IA au centre de toutes les discussions. C'est une sortie qui a eu d'ailleurs pas mal de conséquences sur le marché. Hein, je pense notamment à Meta, qui a décidé d'abandonner son métavers Horizon pour se concentrer sur l'intelligence artificielle, alors que voilà, depuis plusieurs années, Meta nous disait non, c'est le métavers qui est l'avenir. Google, qui a également développé quasiment dans la foulée Bard, voilà, qui est son propre ChatGPT. Donc bref, tout le monde en parle, tout le monde spécule, tout le monde s'impatiente ou au contraire s'inquiète, hein, c'est au choix. En tout cas, je pense qu'on se souviendra de l'année 2023 comme une année charnière pour l'IA.
Ouais.
Et ce qui m'amène du coup à la question suivante, Alain, quid de la suite, quoi. Qu'est-ce qu'on peut penser de la suite? Qu'est-ce qu'on peut espérer ou attendre de l'IA? Alors j'imagine que la pilule rouge, du coup, qu'est-ce que c'est? Ça y est, c'est Matrix justement, les machines nous cultivent.
Eh ben écoute, tu vas voir, pas tout à fait, mais pas loin. Alors, pilule rouge pour l'IA. Donc l'IA explose, c'est clair, sans contrainte. Sans contrainte. Et en fait, on commence à brancher de l'IA partout, et donc on débranche de l'humain. Et donc les plans sociaux explosent. Alors que ça va depuis les conseillers, c'est-à-dire qu'on branche de l'IA pour les conseillers au téléphone. Et il y a des milliers de gens dans plein de pays qui se retrouvent finalement à la rue. Mais c'est aussi les acteurs. Les acteurs, on leur demande juste de venir 3 minutes sur un plateau et puis hop, après on fait un film complet avec une IA qui reproduit leurs gestes, leurs intonations, etc. Et en gros, ils arrivent à faire un film. Et sauf qu'au lieu qu'un acteur était payé $1 million, eh ben on lui donne 1 000 boules. Pour juste un peu plus, 10 000 euros. Allez, 10 000 euros pour un acteur pour venir faire 5 scènes et après tout le reste du film est fait avec ça. Donc, c'est vraiment aux États-Unis en particulier, il y a vraiment un gros choc. En fait, on ne pensait pas, mais c'est là où il y a un gros choc social. À telle enseigne que le Sénat commence un petit peu à être obligé de. Il y a des émeutes dans la rue, etc. Et l'IA qui conseille le Sénat américain lui conseille de lui donner le pouvoir pour gérer ça de manière optimale, parce qu'il n'y a pas assez de force d'ordre. Donc, en fait, on met des IA, y compris des robots qui commencent à être blanchés sur les IA, pour contrôler les gens qui n'en peuvent plus dans la rue de ne pas avoir de job. Et donc, la guerre civile se met en place à travers, justement, une IA qui conseille tout ça, parce que, quelque part, le président américain a donné les pleins pouvoirs à l'IA qui conseillait le Sénat. On est en pleine dystopie, mais c'est effectivement ce qui pourrait nous guetter si, socialement, on ne fait pas attention.
Bon, et alors, imaginons quand même un instant un peu plus positif. Voilà, du coup, j'imagine, l'IA est encadrée. C'est un peu ça ce que tu disais, hein. Le pilule rouge, il y a sans contrainte. Voilà.
Voilà.
Alors, on laisse tout aller à volo. Donc, l'autre penchant, du coup, c'est
le. Pilule bleue. L'IA est déjà contrôlée. D'autre part, l'IA, finalement, fait des choses, mais comme toute technologie, elle est plutôt raisonnable. C'est-à-dire qu'elle ne révolutionne pas tout. Hein. Et en plus, il y a un autre phénomène, c'est que la privatisation, parce qu'effectivement, qu'on voit bien derrière mon scénario rouge, une privatisation de l'IA avec, par exemple, un acteur comme OpenAI, en fait, est tout simplement doublée par le fait d'avoir des milliers, en fait, de modèles d'IA disponibles plutôt en open source, qui permet justement à des acteurs à tout niveau de le faire. Et comme il n'y a pas de prédation de la part d'un seul acteur, ben en gros, on est plutôt dans le phénomène, au contraire, d'innovation et de productivité large. Tous les éditeurs logiciels du monde rajoutent de l'IA dans leur système, les améliorent, les rendent justement plus performants, plus autonomes. L'Europe tire bien son épingle du jeu parce que l'Europe a toujours un rapport avec l'intelligence, et d'ailleurs tous les meilleurs acteurs de l'IA, ben les experts, les ingénieurs, sont souvent des Européens et des Français. Couplé au knowledge, parce qu'il faut du knowledge pour faire de l'IA, il faut avoir des bases de connaissances, il faut avoir cette volonté-là. Et donc l'Europe devient aussi, reprend du poil de la bête, j'ai envie de dire, construit justement des modèles extrêmement fins, subtils, et avec une logique d'ailleurs un peu libertaire, où il y en a pour tous les goûts, c'est-à-dire qu'il y a plein d'IA différentes, un peu comme pour la mode ou pour le luxe, dans lequel on est très bon pour créer ces choses-là. Et donc on vit de plus en plus avec des IA, mais qui n'ont pas enlevé notre humanité, mais qui nous ont complété, comme le téléphone nous a complété. Et en fait, d'une certaine manière, on a une vie plutôt apaisée avec les IA, même si il y a plein de frottements. Comme par exemple, avec le téléphone, il y a des frottements parce que les gens, des fois, répondent au téléphone au lieu de parler les yeux dans les yeux. Bah, c'est pareil, à un moment donné, les personnes se tournent vers l'IA pour avoir un avis plutôt que demander à leur mère. Donc, il y a des conflits dans les familles parce que les adolescents demandent plus aux IA qu'à leur père et leur mère ce qu'il faut faire dans la vie. Donc, on reconstitue en fait des normes sociales un peu modernes. Donc, c'est pas un scénario tout bleu, mais c'est pas non plus un scénario rouge, c'est un scénario dans lequel, socialement, il faut juste s'habituer à vivre avec les machines, comme on l'a toujours fait. Voilà pour mon hypothèse bleue, Elia.
Merci beaucoup, Alain, justement. Alors, c'était le dernier sujet, et je voudrais te poser une dernière question avant de clôturer cet épisode. Sur les différents sujets qu'on a évoqués, et pas seulement, hein, tu peux m'en sortir d'autres, ce qui est important, mais... est-ce que tu as un avis sur le sujet qui est le plus proche de la pilule bleue, on va dire, et un sujet où on se dirige plutôt vers la pilule rouge? Ou alors aucun des deux, tu dis pour moi on est vraiment entre deux sur tous les sujets, et advienne que pourra, qui vivra verra. Voilà. Est-ce que pour toi il y a des sujets qui balancent plus d'un côté que de l'autre, ou pas du tout?
Je pense qu'en fait, tu vois, tu me reposes la question, c'est intéressant, et je vois les quatre sujets, tout d'un coup, je vois un fil rouge entre les quatre, en fait. Je pense qu'effectivement, l'intégralité va basculer du côté rouge ou du côté bleu en même temps.
Ah, intéressant. D'accord.
Je refais un storytelling des quatre. Mais c'est intéressant parce que ça, j'avais pas réfléchi comme ça et tu m'amènes à le faire et je te remercie. C'est que si l'IA est disponible de manière non... Je commence par le 4, hein, juste pour donner.
Vas-y.
De manière ouverte ouverte et partagée. Ça veut dire qu'un James Pod, par exemple, mais aussi nos amis de Wimi et d'Interstice, en auront, par exemple, capacité. Si, par contre, c'est fermé, qu'il n'y a que OpenAI qui l'a, c'est Microsoft qui l'a, parce que derrière OpenAI, c'est Microsoft. Donc, si l'IA est ouverte, les projets AMI peuvent justement avoir de l'IA. Et si Microsoft, du coup, est lui-même pas au centre du game, en même temps, il y aura moins d'IA centralisée. Si au contraire, Microsoft n'est pas démantelé, il sera encore plus fort sur l'IA pour écraser tout le monde. Parce qu'en fait, il va appliquer sur l'IA ce qu'il a fait pour le reste, pour Teams, etc. C'est-à-dire donner gratuitement et tuer le marché. Et en face, on aura du coup une réaction qui ne sera pas ouverte, comme pour Sectum Cloud, vers l'Europe, mais on va se refermer sur notre marché intérieur en créant une petite rente, mais toute petite, dans un monde très fermé pour le cloud de confiance militaire, quoi. En gros, ce qui est d'habitude. Donc tu vois, c'est très très lié. Si l'IA est ouverte, que les projets du coup peuvent s'ouvrir et que du coup on s'ouvre en termes de normes et quand Microsoft s'ouvre, alors dans ces cas-là, on sera en pilule bleue pour tout le numérique. Si à l'inverse, si tu veux, tu fermes l'IA et tu fermes le Microsoft, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poursuite, en fait, les projets vont avoir du mal, même en faisant une norme qui va finalement être rabougrie. C'est très 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 lié. Une attitude générale, et finalement on en revient à Matrix.
Et oui.
Dans Matrix, on dit à Neo, choisis la pilule bleue, choisis la pilule rouge. Et quelque part aujourd'hui, les décideurs, alors c'est vrai pour Breton à l'Europe, ou Jean-Noël Barrot et évidemment le maire en tant que politique, je leur donne ça dans les mains, hein, voilà. C'est choisissez, soit vous allez prendre la pilule rouge, soit vous allez prendre la pilule bleue. Parce que la pilule rouge, par contre, évidemment, on est asservi par les machines, on est asservi par Microsoft. Finalement, on accepte son sort. C'est aussi une façon de voir le problème. La pilule bleue, il faut se battre. Il faut se battre contre Microsoft. Il faut se battre au niveau européen. Il faut se battre... voilà. Donc après, j'ai envie de dire... ce que je vois, c'est que par exemple, la séquence Jean-Noël Barrot, en tant que ministre du numérique, c'est quelqu'un qui se bat et qui préfère la pilule bleue. L'ancien ministre du numérique, il trouvait que la pilule rouge était super. Voilà. Donc après, justement, donc je pense qu'on est dans ce moment-là, mais rien n'est jamais écrit avant que l'histoire se passe. Donc, mais effectivement, ils sont très liés. Merci en tout cas de m'avoir amené à penser ce truc très longitudinal, très transversal.
Ah bah, merci à toi, et ça me rappelle effectivement ce que tu avais dit dans un épisode de présent d'Au-delà du live, en disant ne vous trompez pas, mesdames, messieurs, tout est lié, ce ne sont pas des sujets qui sont décorrélés des uns des autres, et donc c'est effectivement justement le fait que tout soit lié et que tout va basculer d'un côté ou de l'autre, c'est extrêmement intéressant. Voilà, chers auditeurs, je pense que voilà, c'était l'intro du film Matrix by James Spott, Matrix by les voies du
C'est
digital. Donc voilà. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce
Merci à
32e
toi.
épisode. C'était vraiment très intéressant. Évidemment, donc qui dit dernier épisode de la saison, je me dois de remercier évidemment tous ceux qui nous suivent. Alors depuis le premier épisode ou pas. D'ailleurs, merci également à tous ceux qui ont pris le train en marche. Il n'est jamais trop tard pour s'informer, que ce soit sur le numérique ou sur n'importe quel autre sujet. Alors évidemment, les vacances arrivent, comme l'a dit Alain en introduction. L'émission Au-delà du live va prendre une pause de quelques semaines, bien méritée. On sera de retour avec Alain, alors, soit à partir du mois de septembre pour vous débriefer un peu ce qui s'est passé cet été, c'est une possibilité, soit à partir du mois d'octobre pour reprendre le format classique, hein, éditorial que vous connaissez bien. On passera en revue les différents sujets du mois de septembre. On verra, pour l'instant, on n'en a pas discuté, donc vous verrez bien, ce sera la surprise de la rentrée. En tout cas, les autres formats des voies du digital seront de retour quant à eux dès le mois de septembre. Je pense notamment à ton émission Bonjour les spotters, Alain.
Bien sûr. Hein,
voilà, bien sûr, les revues hebdomadaires qui reprennent dès septembre. Et vous aurez également, vous pourrez retrouver les interviews des podcasts experts, les débats d'horizon numérique. On vous prépare un petit épisode d'alternative numérique également. Voilà, et il y aura évidemment, bien évidemment, de nouveaux formats. Alain, merci beaucoup encore une fois.
Ben, merci à toi. Au-delà du live, tu as dit que c'était le 32e, hein?
32e, exactement.
Ah, bien, 32, tu sais que c'est 2 puissance 5, donc on est effectivement bien dans le numérique. Hein, donc, tu vois, on est dans le binaire. 32, c'est une puissance de 2. Voilà.
Et voilà, c'est magnifique. Tu vois, les signes, on espère que ce sera un signe pour la suite.
Amérique.
Merci encore à tous. Merci encore à tous de nous avoir suivis. Bonnes vacances, du coup. Passez un très bel été. Profitez bien du soleil. Et on vous donne rendez-vous avec Alain à la rentrée pour de nouveaux podcasts. À bientôt.
À bientôt.